Le matin de Pâques. La Sainte Vierge priait dans sa petite chambre. La porte est fermée et les volets sont poussés. Marie est toute recueillie, toute occupée de la pensée de Jésus, des souvenirs si douloureux du drame sanglant qui vient, il y a si peu de temps, de se terminer au calvaire. Elle sait cependant que son divin Fils a promis de ressusciter, car elle se rappelle tout ce qu'il disait dans ses sermons. Les autres ont oublié, mais elle a toujours écouté avec tant d'attention qu'elle se souvient de ses moindres paroles. C'est pourquoi, cette nuit, elle a décidé de veiller dans une attente solitaire, faite d'une foi inébranlable et d'une immense espérance. L'une après l'autre, les heures s'écoulent. À peine les 12 coups de minuit viennent-ils de s'égrener au clocher du temple de Jérusalem, qu'une resplendissante lumière envahit subitement la petite chambre. Marie n'a pas peur. Elle regarde. Jésus est là, devant elle, dans la lumière. Elle n'a pas ouvert la porte ni la fenêtre. Il est entré sans bruit, sans faire de trou dans la muraille ni au plafond. Oh, comme la Sainte Vierge est heureuse! Elle croit vraiment mourir de bonheur. Elle tombe à genoux et se prosterne pour adorer son divin Fils ressuscité. Il ouvre les bras et voici qu'elle l'embrasse. Que c'est beau, comme ils sont heureux tous les deux. Marie demande à Jésus de s'asseoir. Il se met tout près d'elle. Elle le regarde avec un si grand amour. Alors, c'est fini de souffrir, d'avoir mal. Il ne saigne plus, il ne mourra plus jamais. Oh non, Jésus n'a plus de blessure. Il est splendide, rayonnant comme le soleil, et si beau que sa maman en est comme éblouie. Elle s'aperçoit cependant qu'il a gardé dans ses mains, ses pieds et son côté, les trous des clous et de la lance. Mais ses blessures ne sont plus tristes. Au contraire, elles brillent comme de merveilleux diamants. Jésus explique alors à sa mère qu'il a fait exprès de conserver ses cicatrices. Il compte bien les montrer à son père chaque fois que les gens seront très méchants pour lui dire « Pardonnez-leur, ne les punissez pas. Regardez ce que j'ai supporté pour eux. » Pendant qu'ils causent ensemble dans la petite chambre toute baignée de la lumière du paradis, Jésus remercie sa mère de son courage, de sa vaillance au pied de la croix. Elle est restée debout au pied de la croix. Il l'assure qu'elle a ainsi mérité d'être la maman de tous les hommes jusqu'à la fin du monde. Il ajoute combien il est fier de sa mère. Marie, à son tour, lui rappelle comme c'était terrible et en même temps très beau de le voir souffrir avec tant de patience et d'héroïsme. Elle lui promet de l'aider désormais à empêcher les pauvres hommes d'aller en enfer. Mais voici les premières lueurs du jour. Il faut se séparer, car Jésus compte visiter plusieurs personnes en ce matin de Pâques. Dans une grande et douce allégresse, tous deux s'embrassent. Jésus quitte sa mère et lui donne sa bénédiction. La veille, dans la soirée, Marie-Madeleine s'était entretenue avec ses meilleures amies. Elles ont résolu de se rendre de grand matin au cimetière afin de terminer plus convenablement l'ensevelissement trop hâtif de Jésus. On avait dû tellement se dépêcher le vendredi soir que ces bonnes personnes se tourmentaient et voulaient absolument faire les choses tout à fait bien. Elle se lève de grand matin, s'habille en hâte dans l'obscurité et se retrouve munie de parfums précieux sous la route du cimetière. Elle marche d'un pas rapide tout en causant. Elle s'inquiète de l'énorme pierre. Comment ferons-nous? Nous n'en sortirons jamais. Les quatre hommes, vendredi soir, ont eu bien du mal et ils ont dû employer toutes leurs forces pour la manœuvrer. « Et les soldats, dit une autre, ils vont sûrement nous faire des misères. » « Inutile de s'en faire à l'avance, répond une troisième. Disons plutôt nos prières, afin que le bon Dieu nous assiste. » Le jour commence à peine lorsqu'elles parviennent au cimetière. Plus de soldats, quelle chance! Toutes se mettent à courir, elles aperçoivent la pierre renversée et le tombeau vide. Consternées, elles ne savent que penser, mais en regardant de plus près, elles sont de plus en plus saisies. Car un ange magnifique, enveloppé de vêtements d'une blancheur éblouissante, est assis dans un coin du sépulcre. Les voyant si tremblantes, il les rassure. « Ne craignez rien, leur dit-il. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié avant-hier. Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici. Il est ressuscité comme il l'a dit. » Oui, l'ange a dit, il est ressuscité, comme il l'a dit lui-même. Elles ont toutes bien entendu, mais ces paroles leur semblent tellement extraordinaires qu'elles ne comprennent pas. Elles s'en vont, elles ne trouvent rien à dire, elles croient rêver. Mais Marie-Madeleine, elle, se dit « Je vais retourner, nous n'avons pas bien cherché. » Le corps de Jésus doit être caché quelque part. Je retourne au cimetière. Quant à ses compagnes, elles continuent leur route, mais elles marchent la tête vide, comme des machines tant elles sont éperdues. Tout à coup, un homme les croise sur le chemin et leur adresse bonjour. « Je vous salue, » dit-il. Elle reconnaît cette voix si douce, si joyeuse. Est-il possible? C'est Jésus! Alors, c'est vrai? Il n'est plus mort? Il est vivant? Ressuscité? Elle le regarde de tous leurs yeux rayonnants et tombant à genoux, elle l'adore. Jésus les bénit et les prie d'annoncer la bonne nouvelle à ses chers apôtres. Qu'elles sont heureuses! Bien sûr, elles courent avertir les apôtres. Elles courent, elles sont folles de bonheur. Elles font un vacarme tel à la porte que Saint Jean survient, bientôt suivi de Saint Pierre. Aussitôt, ils s'informent. Pas moyen de s'entendre, elles partent toutes à la fois pour raconter l'incroyable rencontre de Jésus vivant, ressuscité. Pour sûr, songent les deux apôtres, elles sont devenues folles, le chagrin leur a fait perdre la tête. Ce que c'est que les femmes, en voilà des contes. Malgré eux, ils sont troublés et ne peuvent tenir en place après le départ des saintes femmes. Tout de même, si c'était vrai, allons au cimetière, allons voir. Et en toute hâte, ils se mettent en route. Pendant ce temps, la pauvre Marie-Madeleine, toujours en larmes, a rejoint le tombeau. L'ange n'a pas bougé. Pourquoi pleurez-vous? C'est qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Sans plus s'inquiéter de l'ange, elle commence ses recherches, inspectant minutieusement tous les coins et recoins des alentours. De plus en plus désolée, car elle ne trouve rien, elle aperçoit un homme. Bien sûr, c'est le jardinier. Elle court à sa rencontre.
Monsieur, si c'est vous qui l'avez caché, dites-moi, s'il vous plaît, où vous l'avez mis. Je l'emporterai bien toute seule.
Le soi-disant jardinier lui dit « Marie, le cœur de Marie-Madeleine s'est arrêté de battre. Cette voix, oh, c'est la sienne, c'est Jésus. »
« Oui, c'est bien lui, vivant, ressuscité, si bon et si beau. »
Marie-Madeleine, prosternée, n'a qu'un cri. « Mon bon maître, Rabouni !» Elle veut, dans un geste d'adoration et d'amour, embrasser les pieds divins qu'elle a autrefois arrosés de ses larmes et baignés de ses parfums. Mais Jésus l'envoie tout de suite informer les apôtres, et il disparaît. Madeleine a quitté le cimetière dans un délire de joie, et quelques instants après, Saint-Pierre et Saint-Jean, qui ont couru en même temps sur la route, parviennent eux aussi au tombeau. Saint-Jean arrive cependant le premier, ce qui n'est pas étonnant, car d'ordinaire, les jeunes courent plus vite que les vieux. Mais Saint-Pierre n'est pas vieux, il est plus âgé que Saint-Jean. Saint-Jean est poli. Il a des égards pour son chef et, malgré son impatience, il l'attend pour pénétrer à sa suite dans le sépulcre. Tous deux aperçoivent le linceul et les linges, soigneusement pliés et rangés.
« Ici ?» dit l'écrivain. « Attention aux enfants qui font le désespoir des mamans par leur désordre. » Jésus, qui était cependant fort pressé de ressusciter, a trouvé moyen de tout laisser en ordre avant de quitter le tombeau. Alors, une bonne leçon que Jésus nous donne pour pratiquer l'ordre.
Donc, pas de trace du corps de Jésus. Quant à l'ange, il a disparu. Bouleversés de tout ceci, Pierre et Jean rentrent désolés à la maison. Ils apprennent qu'en leur absence, Marie-Madeleine a fait à leur compagnon le même récit, le même message que les femmes accourues aux premières lueurs du jour. C'est à n'y rien comprendre. Tous demeurent persuadés qu'elle aussi a perdu la tête. Ils ne peuvent croire un seul instant à la splendide réalité de la divine résurrection de Jésus. Mais nous allons voir qu'ils auront changé d'avis avant ce soir et que la journée de Pâques garde pour eux aussi ses carillons de joie.